On va commenter un des grands passages de la Bible qui se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne de Matthieu 5. Ici, nous sommes dans Luc 6, verset 17. J'aimerais que vous tourniez avec moi des versets chapitre 6 et page 71 dans la Bible à la colombe, versets 17 à 26. Prions. Seigneur, oui, merci de nous rappeler que notre temps ici-bas est un temps relativement court, Seigneur. Personne ne sait l'heure de notre retour, mais ce que nous savons, c'est que nous pouvons te connaître, nous pouvons t'appartenir. Et Seigneur, ça fait toute la différence. Nous ne connaissons pas le futur. Mais toi, tu le tiens entre tes mains, Seigneur, et nous pouvons nous en remettre à toi avec confiance et paix. Seigneur, parle-nous ce matin. Aide-moi, Seigneur, à rappeler ces choses que tu nous as confiées, Seigneur, et qui sont tellement importantes. Merci de nous rappeler que tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Que tes voix sont infiniment au-delà de nos voix. Prions ces choses dans le nom de Jésus, notre sauveur, notre maître. Il devient notre sauveur lorsqu'il devient notre maître. Soyons à l'écoute de lui ce matin, nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. Verset 17. On avait déjà vu dans les premiers chapitres de Luc l'autorité de cet homme qui dit être Dieu. Et là, il va nous montrer son autorité à redéfinir les valeurs du monde. Il va nous montrer qu'en fait, ou nous rappeler, pour ceux qui l'ont déjà entendu, que ces valeurs, les valeurs du Christ, ne sont pas les valeurs du monde. Un commentateur a même écrit « Si vous empruntez la voie du monde, vous devez renoncer aux valeurs de Christ. Si vous empruntez la voie de Christ, vous devez renoncer aux valeurs du monde. » William Barclay. Souvent nous voulons trouver de l'encouragement dans notre vie ici-bas. Nous voulons être vengés, nous voulons être consolés, nous voulons avoir ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et Jésus nous prend complètement par surprise, il nous dit « Non, non, vous n'avez rien compris, ça n'a rien à voir. » C'est pas évident à admettre, mais en même temps, dans ce paradoxe qu'il va nous présenter, il y a l'écho de la vérité. En anglais, on dirait « the ring of truth », le fait que ça sonne juste, ça sonne vrai. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous rabâche, de tout ce qu'on nous rappelle, tout ce qu'on nous invite à vouloir, à désirer. Il nous promet, un autre commentateur nous a promis dans ces passages trois choses. Il nous promet de nous délivrer complètement de la peur, d'être heureux de façon absurde, mais aussi d'être toujours plongé dans les ennuis. Libéré de la peur, heureux de façon insensée, absurde, mais aussi complètement confronté aux difficultés dans cette vie ici-bas. » un petit test. Quand vous étiez enfant et qu'on vous servait, je ne sais pas, pour les personnes qui ne sont pas de culture française ou francophone, mais on donnait souvent aux enfants un petit 4 heures, un petit sandwich où il y avait du pain beurré et du chocolat. Et en fait, il y avait deux genres de comportements vis-à-vis de ça. On va dire trois. Il y en avait qui mangeaient le pain au chocolat, le pain avec le chocolat, sans toucher au sandwich. Puis il y en a d'autres qui enlevaient le chocolat et qui le mangeaient tout de suite. Il y en a qui faisaient ça. On va pas me demander de sondage. Et puis d'autres qui mangeaient d'abord le pain et qui se régalaient ensuite du chocolat. C'est pas scientifique, c'est pas nécessairement vrai, mais j'ai l'impression que si vous étiez de ceux qui attendiez d'avoir mangé le pain pour manger enfin le chocolat, vous êtes plus près de vivre la vie de chrétien.
Waouh !
Si on vous avait dit qu'aujourd'hui on vous parlerait de chocolat et de vie chrétienne. Mais je pense qu'en fait, c'est la notion de gratification repoussée dans le temps. Est-ce que vous avez besoin d'être satisfait tout de suite, ou est-ce que vous pouvez reporter à un moment dans le futur les bonnes choses? Parce que c'est ce que Jésus nous promet. Il nous dit, vous allez souffrir ici-bas en tant que chrétien, c'est l'économie du royaume. Mais je vous garantis que ce qui est à venir va de loin surpasser tout ce qui peut vous arriver. C'était d'ailleurs ce que disait Paul lorsqu'il disait qu'un poids de gloire nous attendait. Et qu'en fait, on pouvait vivre les difficultés, sachant que il y avait quelque chose de formidable qui arrivait. Dans 2 Corinthiens 4, 16, il disait, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, nous vieillissons, nous n'avons plus les mêmes capacités, notre homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour en jour. Et il ajoute, verset 17, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Le chrétien est appelé à vivre par la foi. L'homme naturel veut vivre partout sauf par la foi. Je le veux tout de suite, je le veux maintenant. Ce n'est pas l'économie du royaume. Lisons ensemble les versets 17 à 26. Il descendit avec eux et s'arrêta, il parle de ses disciples, il vient de nommer 12 apôtres. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On va voir que le reste du texte, posant ici, va nous rappeler ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne des trois chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Il y a un débat parmi les spécialistes pour savoir est-ce que c'est le même discours qui est rapporté ou pas. On a parlé du sermon sur la montagne lorsqu'on commence le chapitre 5 de Matthieu. On peut lire en effet que voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Ici, il dit qu'il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. En fait, c'est sur une plaine en grec, où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon, des contrées païennes. Et la question, c'est, est-ce que cette plaine, c'était la montagne? Alors ici, dans la version que j'utilise, la version à la Colombe, il résolve le problème en disant que c'était un plateau. C'était plat, mais c'était en altitude. Donc, c'était la montagne, mais c'était un plateau. En fait, ma conviction, c'est que c'était deux moments différents, parce qu'on va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites dans ce passage, qui sont dites dans l'évangile de Matthieu. Entre autres choses, il y a cette comparaison que Jésus faisait dans l'évangile de Matthieu entre la loi qui avait été donnée aux Juifs par Moïse et les vérités du royaume qui sont annoncées par Jésus. On sait que Matthieu, lui, il s'adressait à un auditoire judaïsant, juif, et donc il faisait souvent référence à la loi, mais aussi le fait que dans Matthieu, si vous avez bien suivi, il y avait une foule, mais il monte avec ses disciples et il enseigne ses disciples. Là, il va enseigner toute la multitude, la foule de ses disciples et la multitude des gens qui sont venus l'écouter. Dans le ministère de Jésus, il semble qu'ici, ça se passe après avoir nommé ses disciples, après avoir nommé des apôtres. Dans l'autre, ça a l'air d'être beaucoup plus tôt dans le ministère de Jésus-Christ. Et en fait, c'est pas très important de savoir si c'est exactement le même moment qui est décrit, ou si ce sont des moments différents. Ce qui est important de savoir, c'est que Jésus adresse certains des mêmes sujets. Et ça nous rappelle que Dieu nous rappelle les choses. Nous vivons dans un monde où il faut toujours du neuf. On veut toujours quelque chose de mieux que ce qu'on a déjà entendu. Et même parmi les chrétiens, si je vous dis que je vais vous rappeler certaines choses, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Parce que les choses qu'on connaît, c'est moins intéressant que les choses nouvelles. Et c'est pour ça qu'il y a des églises, des mouvements dans la foi chrétienne où on est toujours à rechercher la nouveauté. Telle manifestation de l'esprit qui n'a jamais été vue avant. Et là, on devient « Waouh, ça c'est nouveau !» Et quelqu'un disait très justement « Si c'est nouveau, c'est sans doute pas vrai. Et si c'est vrai, c'est sans doute pas nouveau. » Parce que la Bible nous dit nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la foi chrétienne. Tout nous a été révélé. Ce qu'il nous manque, et je parle par expérience vraiment personnelle, c'est que nous ne mettons pas en pratique ce que nous savons. C'est que nous n'appliquons pas ce que nous savons. Et là, il y avait une grande foule qui venait écouter Jésus-Christ. C'était quelque chose de révolutionnaire. Que des grandes foules, là, on pense que quand il est dit une multitude, on sait qu'il avait multiplié les pains pour 5000 personnes, ça représentait sans doute 15 000, peut-être 20 000 personnes en comptant les femmes et les enfants. Il n'y avait pas de grand rassemblement. Il n'y avait pas de grande conférence, comme en ce moment on peut voir les conférences dans les nouvelles avec le débarquement. On nous rappelle un peu la vie d'Hitler dans ces grandes manifestations dans les stades à Nuremberg où il y avait des foules en folie. Les grandes conventions politiques organisées par Big Malion, ça n'existait pas. Et le fait que les foules se pressaient, ça montrait qu'ils cherchaient deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, ils voyaient que cet homme guérissait. Il faisait des miracles et les gens voulaient être touchés par cet homme qui était un fabricant de miracles, qui pouvait guérir des esprits impurs. Aujourd'hui, on parlerait des maladies psychologiques. Bien souvent, il y a une confusion, je crois. Il faut du discernement pour distinguer entre ce qui est proprement physique, chimique, et ce qui peut être de nature démoniaque. Et souvent, ça se rejoint. Ils étaient guéris, les esprits impurs les quittaient. Et ils voulaient tous le toucher. Ils avaient l'impression qu'en le touchant, ils allaient pouvoir recevoir cette force dont il est question ici, qui guérissait tous les hommes qui s'approchaient de lui. On imagine que dans cette foule, il y avait des gens qui n'auraient jamais été ensemble, mais dans leur désir d'être guéris, d'être bénéficiaires de miracles, ils se mélangeaient. Il y avait des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, des gens qui ne se seraient jamais fréquentés, qui se retrouvaient ensemble à essayer d'approcher Jésus. Il est dit aussi qu'ils venaient pour l'entendre. C'était un peu comme secondaire pour la majorité des gens. Ce qu'ils voulaient d'abord, c'était le miracle. Et en fait, pour Jésus, c'était l'inverse. Le miracle, la guérison physique, la guérison spirituelle des démons, c'était ce qu'il faisait par compassion. Mais ce qui lui importait davantage, c'était l'enseignement. C'était de dire les vérités que le monde ne nous dit pas. Nous vivons dans un monde d'illusions. Nous vivons dans un monde de mensonges. Si vous voulez connaître la vraie situation de l'homme, c'est pas dans les statistiques, c'est pas dans les débats politiques, c'est pas dans les débats sociologiques. C'est pas danser dans l'air, même s'il y a des choses très intéressantes à écouter, c'est dans la parole de Dieu. Si vous voulez connaître votre vraie situation, vos vrais besoins, vous les connaîtrez en venant lire et prendre en compte la parole de Dieu. Encore une fois, les voies du monde sont complètement à l'opposé des voies de Dieu. Et même nous, chrétiens, engagés, fervents, nous avons des fois du mal à séparer les deux. Toujours parce qu'on veut manger notre chocolat tout de suite. Et donc il y a cette grande foule et Jésus, qui devait avoir une bonne voix parce qu'il n'y avait pas de système d'amplification, il leur dit, en fait, ce qui compte, c'est d'être heureux comme Dieu le veut. Pas heureux comme le monde vous dit que vous devez l'être. Le mot qui va être utilisé, heureux, 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 réjouissez-vous. C'est un mot qui désigné en grec, c'est le mot. Peut-être certains se rappellent, il y avait un dirigeant politique, c'était un archevêque orthodoxe à Chypre qui s'appelait Monseigneur Makarios. Makarios, c'est Monseigneur béni. C'est ce sens-là. Et cette bénédiction, c'était la bénédiction qui venait de la faveur de Dieu. Savoir qu'il y a un Dieu qui vous aime, il y a un Dieu avec qui vous êtes en paix, un Dieu qui se réjouit lorsqu'il pense à vous, un Dieu qui se délecte de vous parler, et il nous donne un peu les valeurs de ce qu'on appelle le royaume. Le royaume, c'est pas quelque chose de difficile à définir. Le royaume, c'est là où Dieu règne. Donc le royaume, ça peut être dans une prison. On a une bonne amie, Fédosie, dont le papa Abel est en prison, je crois injustement, elle en est convaincue aussi. Pour lui, le royaume de Dieu, c'est cette cellule de prison où Dieu règne. Et il leur dit, vous allez être heureux, vous allez voir cette bénédiction. C'est complètement différent de ce que les gens recherchent, la libre poursuite du bonheur. Le bonheur, il est sympa, mais son problème, c'est qu'il dépend trop de nos circonstances. Je suis joyeux, mais si on m'annonce que j'ai une maladie, je tombe dans la dépression. Je suis joyeux, mais si je suis renvoyé de mon boulot, je déprime, je me morfonds, je pleure. Le bonheur, selon Dieu, cette bénédiction, ce makarios, il dépend pas des circonstances. Et parce qu'il ne dépend pas des circonstances, il est bien plus fort, il est bien plus inébranlable. Il est quelque chose comme la quille d'un voilier qui vous donne la stabilité. Le vent peut souffler, le bateau s'incliner, giter à droite, giter à gauche, s'incliner à droite et à gauche. Mais parce qu'il y a cette chose profonde qui vous ancre en Dieu, vous pouvez résister à toutes ces choses. Et vous savez que ce qui compte, c'est pas le voyage, c'est votre destination. Oh, quel repos céleste nous avons en Jésus. It is well with my soul. Si j'ai cette paix profonde. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Question du royaume de Dieu. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Il nous dit de nous réjouir de la pauvreté, de la faim, du chagrin et du rejet. Ça va pas la tête ? La pauvreté, la faim, le chagrin, le rejet. Et pour peu qu'on doute de ce qu'il veut nous dire, il nous dit la même chose, mais maintenant de façon positive. Il nous dit de nous réjouir. Réjouissez-vous en ce jour-là, toujours cette gratification dans le futur. Tressaillez de joie. C'est quand la dernière fois que vous avez tressailli de joie? Dieu veut que nous tressaillions de joie. J'ai eu le privilège de garder quelques enfants hier pendant que Mardi et Debbie ont enseigné les femmes. Et je crois qu'il n'y a que chez les enfants qu'on les voit tressaillir de joie. Les adultes, ils sont trop sophistiqués pour tressaillir de joie. C'est une réaction infantile. J'avais un professeur de français qui notait toutes les rédactions que l'on écrivait en disant « style, plat, gauche et puéril. On avait 9 ans. C'était normal que ce soit puéril, que ce soit enfantin. Mais Jésus nous dit, vous devez être comme les enfants. C'est pour ça qu'il nous dit, le royaume de Dieu est pour les mêmes que ces enfants. Laissez venir à Dieu, laissez venir à moi ces enfants. Parce qu'il y a cette capacité à tressaillir de joie. Et lorsque je leur ai donné des pains au chocolat, ils ont tressailli de joie. Ils en ont mis partout. Ils ont mangé tout de suite le pain au chocolat. Ils n'ont pas gardé le pain, le chocolat pour plus tard. Non, ils ont tout mangé. Mais au moins, ils ont tressailli de joie. Tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. Malheur à vous les riches, là il nous dit en sens inverse, malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Les mêmes choses, la pauvreté, la faim, le chagrin, le rejet, on peut les éviter dans le monde présent. Mais il nous dit, si vous les cherchez maintenant, il ne nous dit pas que c'est impossible. La vraie punition, c'est qu'on peut les trouver maintenant. La punition, elle aussi future, c'est que ce sera tout ce que vous obtiendrez. Quelqu'un faisait remarquer que pour le chrétien, cette vie présente, c'est le plus proche que nous serons jamais de l'enfer. Par contre, pour les non-croyants, cette vie présente, c'est la vie la plus proche qu'ils auront jamais du paradis. Si vous voulez votre satisfaction tout de suite, tout ce que vous allez obtenir, ça sera tout. Vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez mentir, vous pouvez maltraiter vos semblables. Vous pouvez arriver à vos fins, entre guillemets, F-I-N-S, mais ça sera la fin de l'histoire. Ou alors vous pouvez accepter de vivre dans certaines difficultés lorsque vous savez que ces difficultés sont dues à votre foi. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Est-ce que Jésus dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être pauvre? J'aimerais souligner que certains prennent le sermon sur la montagne ou le sermon dans la plaine ou ce genre d'enseignement de Jésus, soit dit entre autres choses, que si Jésus avait un message, il était normal qu'il le répète plusieurs fois et qu'il reprenne des éléments comme on le fait aujourd'hui lorsqu'on est convaincu de quelque chose et qu'on parle à un groupe, qu'on va parler à un autre groupe, on va reprendre certains des mêmes éléments. Mais certains pensent qu'il faut, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être pauvre, il faut avoir faim, il faut être dans le chagrin, il faut être dans le rejet. Le sermon, qu'il soit sur la plaine ou sur la montagne, ne remplace pas l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas le sermon sur la montagne. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que si vous mettez votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, vous serez sauvés pour le reste de l'éternité, vous vivrez avec Dieu et vous serez dans toutes ces bonnes choses dont on parle. Mais imaginez qu'en faisant un vœu de pauvreté, on va entrer dans le royaume de Dieu, c'est mal comprendre ce que Jésus nous dit. Parce qu'il y a des pauvretés qui viennent du fait qu'on vit d'une façon qui plaît à Dieu. On donne, on aide son prochain. On fait confiance à certaines personnes, mais toujours avec dignité et avec vérité. Mais on peut être aussi pauvre parce qu'on est paresseux. On travaille pas. On se dit, bon, mais de toute façon, il y a le RSA, il y a l'allocation logement. Je vais dire à Pôle emploi que le travail ne me convient pas. On peut être pauvre parce que on fait des choses malhonnêtes et que la justice des hommes nous rattrape et qu'on est ruiné. On se retrouve avec une amende de 10 milliards de dollars. Je pense qu'il y a sans doute des têtes qui vont rouler à la BNP. Être pauvre, c'est pas une garantie d'être en harmonie avec la volonté de Dieu. Il y a même une richesse matérielle. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de personnes riches. Aujourd'hui, on est au bénéfice de certaines personnes riches et qui ont la foi en Christ et qui utilisent leurs ressources financières pour faire bénéficier le royaume de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, dans le passage de Matthieu qui aborde ce sujet, il est question des pauvres en esprit. Et plus que le compte en banque, ce qui compte, c'est de reconnaître sa pauvreté spirituelle. Si on pense qu'on n'a pas besoin de pardon, si on pense qu'on est une bonne personne, alors à ce moment-là, on se dira que Jésus-Christ, on n'en a pas besoin. On fait du mieux qu'on peut, on fait de bonnes choses, on paye nos impôts, on n'a jamais volé de banque, violé d'enfants. Et donc, on est une bonne personne. Alors qu'en fait, tout l'évangile, c'est pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Nous sommes tous, sans exception, des pécheurs. S'il y avait parmi nous une seule personne sans péché, alors ça voudrait dire que Jésus-Christ est mort en vain. Dieu a fait une bourde. Il a laissé son propre fils avec qui il a passé toute l'éternité passée et maintenant future. Il l'a laissé venir s'humilier à la croix, mourir pour mes péchés, alors qu'en fait, il y en a certains qui arrivent par leurs propres efforts, par leurs propres qualités à se passer de lui. On a chanté aussi une chanson que j'aime beaucoup, « La petite voix du Seigneur ». Si vous êtes convaincu que vous n'avez jamais péché, laissez sa petite voix vous parler. Je ne pense pas que parmi nous, il y en ait beaucoup qui aient besoin d'être convaincus par de longues paroles de l'Esprit Saint. Le Seigneur l'a envoyé pour juger, pour nous convaincre de justice, de jugement. C'est dans Jean 16, si je ne m'abuse. Il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le péché, c'est pas qu'il fasse des mauvaises choses, c'est qu'il ne croit pas au Sauveur, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, c'est que Jésus s'en va vers le Père et que la justice est ainsi accomplie. Et le jugement, C'est le prince de ce monde qui est jugé, c'est le diable. Et si nous, ne venons pas à Christ, alors nous allons suivre le diable là où il est destiné, l'enfer pour l'éternité. L'enfer. Il y a encore des chrétiens qui croient à l'enfer. Est-ce que vous croyez à l'enfer? Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous avez un vrai problème. Satan vous a caché la vérité. Il veut vous faire croire que c'est juste une fiction, un style littéraire pour parler d'une chose terrible. Non. Jésus nous dit, c'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Et les riches, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Dans l'Apocalypse, il est question d'une église qui se croit riche, mais qui en réalité est misérable. C'est quand je me crois fort que je suis vraiment faible. Quand je sais que je suis faible, la force de Dieu peut agir à travers moi. La pauvreté en esprit. La faim. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Et puis à l'inverse, malheur à vous, verset 25, qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Si vous mangez votre chocolat maintenant, il vous en restera plus tard. Parlant d'enfance et de choses à faire et à ne pas faire, dans ce même état d'esprit, j'étais prêt à repousser la gratification dans le temps. Mais ce n'était pas toujours pour de nobles raisons. Et là, encore une fois, ma mère disait à Nancy que j'étais vraiment un enfant idéal. Nancy, qui me connaît, sait que je n'étais pas un enfant idéal, parce qu'elle voit le résultat dans l'homme adulte. Et ce que j'aimais bien faire, c'était lorsque, le dimanche, souvent, mes parents nous offraient, on avait un petit dessert, un petit gâteau. Et ce que je faisais, subrepticement, sans qu'on m'en remarque, c'est que je cachais mon gâteau. Et j'attendais que le reste de la famille, et ma petite sœur en particulier, ait terminé son gâteau. Toutes les assiettes étaient vides, et là je sortais mon gâteau et je le mangeais. Vous voyez que j'étais pas un ange. Donc l'idée c'est pas de dire j'attends la gratification future parce que là je me rirai de vous. La chose qui importe c'est de savoir par la foi que si nous suivons Dieu, le meilleur est à venir. Les difficultés présentes, c'est rien par rapport au poids céleste de gloire. Comme on l'a vu dans 2 Corinthiens de Paul. Est-ce que ça veut dire que la faim physique est une bonne chose? Non, encore une fois, si on va voir dans Matthieu, il est question d'avoir faim et soif de justice. Est-ce que devant la corruption du monde, devant les injustices, devant les inégalités, devant le malheur, devant les persécutions, vous soupirez et vous vous dites « Ah, si seulement ça pouvait se terminer !» Est-ce que vous avez faim et soif de justice ? Si c'est le cas, un jour vous serez rassasié. Vous serez rassasié de justice. On est dans un monde où il y a tellement de corruption. On le voit dans le monde politique. On le voit dans le monde des finances, même de domaine de la science, de la philosophie, des gens qui disent des mensonges, des gens qui servent leurs propres intérêts, un jour tout cela sera du passé et la justice sera en place. Vous serez rassasiés. Et la Bible nous encourage à donner à manger à ceux qui n'ont pas faim. À ceux qui ont faim, pardon, qui n'ont pas de quoi satisfaire leur faim. La plupart des organismes non gouvernementaux, les ONG, à ne pas confondre avec les organismes génétiquement modifiés, les OGM et les OGN, souvent leur origine, ce sont des chrétiens. Ce sont des mouvements qui, à l'origine, ont été lancés par des chrétiens qui veulent aider leur prochain. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait cette importance de notre prochain. Faites à l'autre ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. La règle d'or dont on parlera un peu plus loin. La pauvreté, la faim, le chagrin. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. À l'inverse, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Encore une fois, la mort pour le chrétien, c'est un changement d'état. C'est une situation bien plus supérieure. C'est pour ça que Paul disait, je préférerais mourir et être avec le Seigneur, mais je sais que j'ai encore des choses à faire ici-bas. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Le chagrin, nous devons l'embrasser. Et souvent, les gens se demandent pourquoi ils passent par des épreuves terribles. Et la Bible nous dit que souvent, c'est le Dieu de tous les réconforts qui nous permet de passer par ces épreuves afin que nous-mêmes, une fois que nous sommes consolés, nous puissions consoler les autres. Mais on va pleurer avec ceux qui pleurent. Et on va rire pour dans le futur. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le chrétien doit être toujours triste et tirer la face. Jésus était un homme qui connaissait le chagrin, mais il avait l'huile de joie sur lui. The oil of gladness. Encore une fois, parce que on souffre des circonstances, on souffre du péché, on souffre de voir les autres dans le péché, mais en même temps, on sait que Dieu est tout puissant, qu'on peut lui remettre les situations dans la prière, que l'on peut être réconforté, que l'on peut réconforter les autres. Paul nous a fait méditer mardi matin sur le passage d'Éphésiens 3, 14 à 21, où Paul explique qu'il prie que Dieu donne à ceux pour qui il prie, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, c'est Éphésiens 3, 16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Nous avons des raisons d'être joyeux pas de mettre un faux masque de tout va bien, de savoir dans notre cœur que nous pouvons prier les uns pour les autres, que vous pouviez prier pour moi afin que je sois puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans mon être intérieur. Et que moi aussi, je peux prier ces choses-là. Et c'est pas pour être un peu encouragé le dimanche matin. Non, c'est ces choses-là, ça peut être prié pour que ça s'accomplisse selon la richesse de la gloire de Dieu. C'est pas de la gnognotte. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. C'est pas juste, ça fait du bien, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, soyez bénis. Non, vous pouvez prier les uns pour les autres afin d'être fortifiés selon la richesse de sa gloire. Semaine dernière, on a pu aller voir la gloire de Dieu dans des insectes. Certains d'entre nous sont allés voir des lucioles. On avait les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de lucioles. Et puis on voyait aussi les étoiles, on voyait l'immensité des galaxies qui ont été mises en orbite par Dieu d'un simple coup de son petit doigt. La gloire de Dieu, les galaxies, l'éternité, l'infini. Nous avons des raisons de nous réjouir. Pas d'être toujours à tirer la figure en disant « Oh là là, c'est dur d'être chrétien. » C'est dur, mais nous avons ces convictions au fond du cœur. Ces convictions que nous voulons partager parce que ces gens qui rient maintenant, ces gens qui sont rassasiés maintenant, ils vont être dans le deuil, ils vont être dans les larmes. Puis il nous dit « C'est ok si les gens vous rejettent à cause de votre foi. » Alors aujourd'hui, on n'est pas en France, dans notre pays, pour l'instant, on n'est pas encore persécuté. On se moque un peu de nous, on nous prend pour des gens rétrogrades. On dit que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais attends, ils sont plus dans le coup, les pauvres. Ou alors, dans votre famille, si on voit que vous devenez un peu trop sérieux avec votre foi, on commence à dire, mais tu es tombé dans une secte. Je savais bien que tu te ferais embobiner par une secte. Mieux vaut se faire embobiner par Jésus que par quiconque d'autre. On n'est pas embobiné, on est béni par Jésus, on est éclairé, il nous révèle la vérité. Alors c'est vrai que c'est merveilleux, on est heureux lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, ils vous insulteront, rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Il y a des chrétiens qui ont mauvaise presse, il y a des chrétiens qui se font insulter, mais c'est pas parce qu'ils servent Jésus, c'est parce qu'ils sont bizarres, ou qu'ils sont, ils ont un comportement hautain, ils jugent tout le monde, sauf eux-mêmes, ils sont arrogants, ils sont bigots. Toutes ces choses-là, c'est pas de souffrir pour le Fils de l'homme. Souffrir à cause du Fils de l'homme, c'est servir Jésus-Christ, c'est parler de lui selon la vérité de sa parole et essuyer un rejet à cause de ça. Alors c'est vrai que si on dit rien, si on fait les agents secrets, tout va bien, mais il suffit d'aller dans la rue, donner des traités, il suffit de parler à des étudiants à un stand, il suffit d'ouvrir la bouche pour le Fils de l'homme, pour qu'aussitôt on voit la résistance. Pour ceux qui ont fait de la physique, vous savez que la résistance à l'air est proportionnelle au carré de la vitesse. Plus vous allez vite et plus ça résiste. C'est pour ça que vous mettez la main à la porte de votre voiture, c'est comme s'il y avait un mur Ou au moins que vous étiez dans l'eau, alors que normalement, quand vous bougez pas la voiture, vous pouvez mettre la main, il n'y a rien qui se passe. Mais quand vous allez vite, quand vous allez, quand vous vous déplacez, quand vous marchez, quand vous êtes en marche, en voiture, l'air va résister. Et c'est le même principe spirituel. Si vous dites rien sur Jésus, on va pas vous embêter. Au point que s'il y a pas de ces notions d'être rejeté, persécuté, d'être moqué, c'est quelque chose qui est complètement étranger à votre expérience, demandez-vous, laissez l'esprit vous sonder, est-ce que je témoigne de ma foi? Est-ce que je parle dans ma famille de la différence que ça fait? Est-ce que je dis que oui, ben dimanche j'étais à l'église ou pas? Malheur à vous, à l'inverse, lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Les vrais prophètes, c'était pas de la tarte pour leur vie. Mais les faux prophètes qui disaient que tout allait bien, qu'on allait renverser le chômage, qu'on allait vers la prospérité, ceux-là, ils étaient aimés. On aime ce genre de discours. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes trouveront des professeurs, des instructeurs qui leur diront des choses qui leur titillent les oreilles. Vous êtes tous des gens bien. Le problème, c'est la religion. Le problème, c'est ces rétrogrades de chrétiens qui vous parle de péché au lieu de vous laisser libre d'exprimer qui vous êtes vraiment. Mais si vous dites la vérité, il va y avoir de la résistance. Et il y a des pays, et beaucoup de pays, on a des représentants de certains de ces pays ici, je pense au Nigeria par exemple, où des chrétiens sont tués pour leur foi. Des femmes chrétiennes sont pendues. C'est terrible, mais s'il y a cette conviction que servir Dieu, c'est pas pour être toujours populaire, toujours riche, toujours bien dans ses baskets, dans sa peau, à ce moment-là, Dieu peut vous utiliser. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, on parle de toutes ces persécutions, ces gens qui font du mal aux chrétiens, ces gens qui sont riches maintenant, qui se rassasient, qui se moquent de Dieu. Luc va continuer en rapportant les paroles de Jésus, en disant « Moi, je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ça paraît absolument fou, impossible, mais on verra la semaine prochaine comment c'est possible. Prions. Seigneur, merci parce que les valeurs de ton royaume sont à l'inverse des valeurs de ce monde. Et Seigneur, nous pouvons voir que quelque part c'est tellement contraire que ça doit être vrai. Je sais que pour moi c'est paradoxe, c'est vérité que j'ai découverte lorsque j'ai découvert la Bible. Ça m'a convaincu que ce n'était pas l'œuvre des hommes, mais bien l'œuvre d'un Dieu qui veut notre félicité éternelle, qui veut notre bonheur pour l'éternité. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous concentrons sur les 60, 70, 80, 120 ans, si on fait le livre des records de cette vie ici-bas. Mais Seigneur, il y a toute une éternité avec toi. Et tu nous promets que te suivre, que te recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, comme notre Sauveur et Seigneur, c'est la clé de savoir que il y a une félicité qui nous attend, un bonheur éternel. Nous serons bénis pour l'éternité avec toi, Seigneur. Je te prie ce matin d'encourager ceux qui se sentent faibles, ceux qui sont dans les difficultés financières, dans les difficultés de maladies physiques, ceux qui sont découragés par ce qui se passe dans leur vie, Seigneur. Donne-leur de se concentrer sur tes promesses. Donne-leur de se concentrer sur ce qui les attend, Seigneur, s'ils continuent à te suivre de tout leur cœur et de toute leur vie, Seigneur. Et puis peut-être parmi nous, il y en a qui sont interpellés pour la première fois par ces vérités. Si paradoxal. Si c'est votre cas, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur comme votre maître, vous pouvez faire cette prière avec moi. Oui, Seigneur, je réalise que je suis un pécheur. Je vis pour moi-même. Je vis pour une satisfaction immédiate. J'ai besoin de ton pardon. Vous pouvez répéter ça en silence où vous êtes. Je regrette mes péchés passés. Je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Que tu es vraiment ressuscité d'entre les morts. Seigneur, je réalise que je ne suis pas une bonne personne, mais que toi, tu es une personne parfaite. Et je t'invite à venir vivre dans ma vie, Seigneur, dans mon cœur. J'accepte aussi cette récompense que tu me promets, ce salut, cette vie éternelle avec toi, Seigneur, par la foi. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter cette bénédiction éternelle de vivre avec toi pour toujours. Simplement, Seigneur, j'accepte le sacrifice de Jésus-Christ qui a porté mes péchés à ma place sur la croix et qui me demande simplement d'accepter son sacrifice. Seigneur, je te remercie d'entendre ma prière, d'y répondre et de me donner la vie éternelle. Seigneur, je te demande ces choses dans le nom de Jésus-Christ, que je veux prendre comme mon maître et mon sauveur. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous demanderai de lever la main, parce que Jésus a dit que ceux qui le confesseront devant les hommes, il les confessera devant son Père. Il n'y a pas de quoi être honteux. S'il y en a parmi vous qui ont pris cette décision, si vous ne l'avez pas prise, mais que vous vous sentez tiraillé, je vous invite à prier cette prière par vous-même dès que possible. C'est la chose la plus importante que vous puissiez jamais faire.